Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez 100% ActuCac, nouveau podcast proposé par la CRCC de Normandie. Pour vous donner des clés de compréhension, vous apporter un nouveau regard sur des sujets juridiques, économiques, d'actualité, nous allons à la rencontre de personnalités stimulantes, éclairantes et passionnantes. L'ambition de ce podcast est de vous apporter de nouvelles connaissances pour enrichir votre activité professionnelle mais également votre culture personnelle. Pour ce deuxième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Champion, commissaire aux comptes, responsable pour son cabinet des activités du secteur de l'économie sociale et solidaire sur le territoire normand, et par ailleurs membre du groupe de travail Association de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Normandie. Aujourd'hui, il abordera l'actualité des OSBL et des associations.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce podcast sur l'actualité des OSBL et des associations qui est proposé par le groupe de travail Association de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Normandie. Pour cette première édition, nous vous proposons trois thèmes. D'abord, la tenue des assemblées générales en période Covid, assemblées générales et autres organes délibérants des associations et OSBL. Deuxième sujet, nous évoquerons la réévaluation des actifs avec les dispositions fiscales et comptables en vigueur depuis le début de l'année 2021, dispositif qui permet finalement de redorer quelques bilans qui pourraient avoir connu des difficultés, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Et enfin, nous regarderons ensemble l'évolution du champ d'application de l'article 261B du Code général des impôts, article, comme vous le savez, qui vise à porter une exonération de TVA sur les groupements et leurs membres. Voilà, donc passons tout de suite à la partie juridique de la tenue des assemblées générales. Alors c'est un sujet qui est pas nouveau, qui est connu et appliqué depuis finalement mars 2020, mais revenons un petit peu sur cette période de 2020-21, voyons un petit peu d'où nous en sommes dans l'évolution de cette réglementation. Donc, à titre de rappel, vous le savez, pour tenir compte de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a procédé à des adaptations exceptionnelles et temporaires des règles de convocation et de réunion des assemblées générales des personnes morales de droit privé, et ce depuis donc 2020. Plusieurs ordonnances et décrets ont été mis en adaptation. Les règles de réunion et délibération des assemblées générales des personnes morales de droit privé, permettant ainsi de faciliter l'exercice du droit des membres de ces groupements. Donc d'abord, une ordonnance qu'on a bien connue, celle du 25 mars 2020, qui porte sur l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales et organes dirigeants des personnes morales des OSBL. Deuxième point, donc une ordonnance du 2 décembre 2020 qui a été modifiée plus récemment par la loi du 31 juillet 2021. Et puis, dans un second temps, a été pris en application de l'ordonnance du 10 avril 2020 une adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes de droit privé et bien sûr des personnes de droit privé non commerçantes. Ce texte est sorti le 18 décembre 2020. Alors, un petit point de rappel de ces ordonnances et puis voir un petit peu d'où on en est aujourd'hui. Donc l'ordonnance autorise et assouplit temporairement les modalités de réunion des assemblées générales en prévoyant les modes de consultation alternatifs suivants. Donc ils sont au nombre de 4. Le premier, on le sait bien, c'est la participation aux assemblées générales par conférence téléphonique ou audiovisuelle, on l'a tous expérimenté. Deuxième point, le vote par correspondance. Troisième volet, la consultation écrite. Et enfin, l'assemblée générale à huis clos, c'est-à-dire une assemblée générale tenue sans que les membres de l'Assemblée n'assistent à la séance et en étant présents physiquement ou par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'ensemble de ces dispositions sont encore applicables et ce jusqu'au 30 septembre 2021. Un petit focus sur les assemblées générales à huis clos. Initialement, la seule condition exigée par l'ordonnance du 25 mars 2020, donc cette mise en œuvre date du 25 mars 2020, donc un peu plus d'un an, était que l'assemblée soit convoquée en un lieu affecté par mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements, et non pas de façon systématique. Depuis l'ordonnance du 2 décembre 2020, la tenue d'une assemblée à huis clos est soumise à une exigence plus rigoureuse. Ainsi, pour tenir une assemblée générale à huis clos, depuis le 2 décembre 2020, il faut désormais qu'à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, il existe une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et que cette mesure fasse obstacle à la présence physique des membres de l'assemblée à cette dernière. Donc vous voyez bien que pour les assemblées générales à huis clos, ils font des conditions assez strictes et on ne peut pas faire une assemblée générale à huis clos parce qu'on l'a seulement décidé. La loi du 31 juillet 2020, 2021-689, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et ses décrets subséquents, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, assouplissent régulièrement les conditions de rassemblement et des réunions, de sorte que ces conditions nous paraissent aujourd'hui difficilement réalisables, même si l'ordonnance autorise jusqu'au 30 septembre la tenue des assemblées générales à huis clos. Matériellement, il faudrait vraiment qu'on ait des conditions extrêmement strictes en termes de rassemblement de personnes. Et en fait, quels seraient les risques qui seraient encourus si l'assemblée s'est tenue à huis clos alors que les conditions de l'article ne sont pas satisfaites? Eh bien, il s'agit tout simplement de la nullité de l'assemblée et la mise en jeu de la responsabilité civile des dirigeants. Pour ce qui est des autres modes de consultation, la participation aux assemblées générales par conférence téléphonique ou audiovisuelle, le vote par correspondance sont autorisés dans les cas suivants, hein, pour l'ensemble des groupements et pour l'ensemble des assemblées, y compris lorsque les règles qui les régissent normalement ne prévoient pas, et même lorsque les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s'y opposent. On voit que pour ces modalités, on a des conditions un peu plus souples. Le recours à ces modes de participation aux prises de décision n'est soumis à aucune condition tenant à l'existence d'une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, contrairement aux assemblées générales à huis clos. S'agissant du délai pendant lequel ces modes alternatifs s'appliquent, peuvent être mis en œuvre, il conviendra d'être attentif à la prorogation du décret qui arrive à échéance le 31 juillet prochain. Donc ce point-là est à observer, il arrive à échéance le 31 juillet prochain, sauf si un nouveau décret proroge cette possibilité offerte. Dernier point, comme vous le savez, l'ordonnance du 25 mars 2020, qui a été notamment prorogée 2-3 mois, qui a prorogé 2-3 mois les délais prévus par la loi pour l'établissement, la présentation et l'approbation des comptes, était applicable pour les comptes des exercices clos entre le 30 septembre et le 10 août 2020. Donc, comme vous le savez, pour les comptes clos le 31 décembre 2020, les assemblées générales doivent s'être tenues au plus tard le 30 juin dans le cadre des obligations du Code de commerce. Et cette obligation, c'est juste un rappel ici, cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'une prorogation. Deuxième sujet, nous allons aborder la réévaluation fiscale des actifs, et puis on en profitera pour faire quelques rappels sur, cette fois-ci, la réévaluation comptable. Afin de faciliter le recours à la réévaluation libre d'actifs, et aider ainsi les associations et OSBL, organismes sans but lucratif, touchés par la crise économique et sanitaire à assainir leur situation financière, un dispositif temporaire de neutralisation des conséquences de la réévaluation libre d'actifs sur le résultat imposable est introduit par l'article 31 de la loi d'un nouvel article du CGI, le 238 bis. Ce dispositif optionnel s'applique à la première opération de réévaluation libre des actifs constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et ce de manière temporaire jusqu'au 31 décembre 2022. Ce nouvel article 238 du CGI vise exclusivement les réévaluations libres de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières effectivement et qui sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 123-18 du Code de commerce. Il n'a donc pas pour effet d'instituer un régime dérogatoire aux règles prévues par le Code de commerce. Toutes les associations et OSBL soumises aux règles de la comptabilité commerciale peuvent bénéficier de ce dispositif. Pour être éligible au présent dispositif, la réévaluation libre doit porter sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, à l'exception des immobilisations incorporelles, des stocks et des valeurs mobilières de placement. On comprend bien que cette réévaluation libre qui bénéficie de l'exonération et de l'aménagement temporaire ne s'applique qu'aux seules immobilisations corporelles et financières. Les réévaluations partielles des immobilisations corporelles et financières ne sont pas autorisées. Donc c'est une réévaluation globale. Voilà pour l'aspect fiscal qui est introduit par la loi de finances 2021. Pour ce qui est de la partie comptable et fiscale, le nouvel article 238 bis du Code général des impôts institue une nouvelle disposition fiscale particulière qui permet aux associations de différer l'imposition de l'écart de réévaluation intervenant en principe lors de l'exercice au cours duquel la réévaluation est opérée. Les modalités de neutralisation fiscale sont différenciées selon que les actifs réévalués sont amortissables ou ne sont pas amortissables. L'imposition de l'écart de réévaluation afférent à des immobilisations non amortissables est mise en sursis jusqu'à leur cession ultérieure. Tandis que l'écart de réévaluation qui porte sur les immobilisations amortissables fait lui l'objet d'un étalement. En cas d'option pour le régime de neutralisation, l'écart de réévaluation afférent aux immobilisations non amortissables n'est pas inclus dans le résultat au titre de l'exercice au cours duquel la réévaluation est opérée, à condition que l'association s'engage à calculer la plus ou moins value de cession ultérieure de l'actif à partir de sa valeur non réévaluée. Pour ce qui est de l'écart de réévaluation afférent à des immobilisations amortissables, il n'est pas immédiatement pris en compte dans le résultat imposable, mais fait l'objet d'une réintégration extra-comptable par fraction égale dans les résultats de l'association à partir de l'exercice suivant. 15 ans pour les constructions, 5 ans pour les immobilisations, autres que les constructions. En contrepartie de la réintégration de l'écart de réévaluation, le dispositif prévoit que les amortissements, provisions et plus-values ultérieures sont calculés à partir de la valeur réévaluée. Donc revenons sur la partie comptable de la réévaluation des actifs. Hein. Ici, on n'aura rien de nouveau, hein, mais c'est simplement en perspective de la réévaluation fiscale, hein, de cet aménagement temporaire. Voyons maintenant ce qu'il en est pour la partie comptable. Même si, rien de nouveau, même si ça a été édicté et précisé, dans le nouveau plan comptable des associations qu'on connaît tous bien sous le label 2018-06. Les organismes sans but lucratif peuvent réévaluer l'ensemble de leur immobilisation corporelle et financière. les immobilisations incorporelles, l'actif circulant, ne peuvent pas faire l'objet d'une réévaluation, comme on l'a vu sur l'aspect comptable, et ce point est reprécisé dans l'ANC 2018-06. Les entités peuvent procéder à une réévaluation de l'ensemble de leurs immobilisations corporelles et financières. L'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé pour compenser des insuffisances de résultats. L'écart de réévaluation est inscrit directement en fonds propres dans la rubrique « Écart de réévaluation ». L'entité mentionne dans l'annexe la valorisation de l'écart de réévaluation de l'exercice et des informations sur les immobilisations réévaluées mettant en évidence les compléments de valeur et les amortissements supplémentaires. Sur la partie comptable, nous pouvons souligner les éléments suivants et retenons que c'est la valeur nette comptable du bien qui est réévaluée pour la porter à sa valeur réelle à la date de réévaluation. L'écart de réévaluation est ajouté à la valeur brute du bien. Les amortissements ultérieurs sont calculés en appliquant à la nouvelle valeur nette comptable le plan d'amortissement initial, sauf si des modifications significatives sont justifiées dans des conditions d'utilisation du bien. L'écart de réévaluation, donc la différence entre la valeur réelle et la valeur nette comptable, apparaît au bilan en fonds propres, dans les comptes 1051-1052. Il convient de distinguer l'écart de réévaluation sans droit de reprise de l'écart de réévaluation avec droit de reprise. Cet écart de réévaluation ne peut être utilisé pour compenser des pertes. Ce point a été réévoqué dans le cadre du 2018-06. Il s'agit d'une possibilité offerte, notamment dans le cadre d'entités qui présentent une situation nette peu importante, une situation nette, une structure en difficulté qui dispose de patrimoine, peut alors réévaluer ses actifs pour finalement redorer un petit peu son bilan et notamment ses fonds propres. Troisième sujet, l'article 261B du Code général des impôts. Comme vous le savez, cet article permet au groupement de se prévaloir d'une exonération de TVA pour les prestations faites envers leurs membres. Cet article vise donc les groupements, les associations et leurs membres. On va vers une réduction du périmètre de l'exonération de TVA des groupements de moyens. Qu'est-ce qui se passe? L'article 261B du Code général des impôts permet d'exonérer les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués de personnes ayant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujettis à la TVA, à la condition qu'ils concourent à la réalisation de ces opérations et qu'ils soient facturés à prix coûtant. À ce jour, l'application du dispositif d'exonération de TVA est large, très large en France, puisqu'il s'applique dans des secteurs d'activité très variés, comme les banques, les assurances et bien sûr le secteur associatif. Pour se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne, la France, qui a une interprétation un peu plus large de cette disposition, met en place une loi qui réduit à compter du 1er janvier 2023 le périmètre de l'exonération de TVA de l'article 261B du CGI. Cet article visera à partir de cette date les seuls groupements constitués de personnes exerçant une activité pour lesquelles elles n'ont pas la qualité d'assujetti ou exerçant une activité d'intérêt général de TVA. Jusque-là, rien ne change, mais par contre, elle s'appliquera uniquement aux prestations de soins, d'hospitalisation, de traitement, d'activités d'enseignement et d'activités syndicales, et aussi aux activités de services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, rendus à leurs membres par des organismes sans but lucratif à la gestion des intéressés, organismes sans but lucratif à caractère social ou philanthropique, prestations réalisées dans des lieux de vie ou d'accueil. Donc sur nos trois thèmes, le premier hein, concernant les associations, alors vous, enfin les associations, les assemblées générales et la tenue des assemblées générales depuis un an et demi maintenant, qu'on a bien compris qu'on avait des mesures d'assouplissement, dont certaines s'éteignent en juillet, d'autres en septembre 2021. Voilà, soyons vigilants à l'application de ces mesures. Vous savez que les conséquences, bah, c'est la nullité des assemblées générales. Donc bah, finalement, ça peut être assez dissuasif et assez embêtant en cas de non-application de la conformité de ces dispositifs. Donc sur nos trois thèmes, hein, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Donc bon, vous savez les délais et les modalités d'assouplissement de tenue des assemblées générales, donc être bien vigilant hein, sur leur application, même si ça fait un an et demi qu'on le vit, mais ces modalités s'arrêtent pour certaines en juillet, d'autres en septembre. Attention aux conséquences qui sont la nullité des assemblées générales. Sur le point de la réévaluation, bah, c'est peut-être une opportunité dans certains cas, hein, pour des structures qui sont peut-être avec des fonds propres assez faibles, avec du patrimoine, c'est une possibilité. Alors vous avez bien noté que, évidemment, cette exonération fiscale s'applique pour les structures qui sont assujetties aux impôts commerciaux, bien entendu. Et dernier point hein, de vigilance sur le 261B, donc on a un petit peu de temps, mais peut-être envisager de ne pas peut-être orienter les clients vers une application du 261B qui maintenant, on l'a vu, ben, se rétrécit et avec qui propose finalement une réduction du périmètre, avec une interprétation différente hein, de la loi française actuelle et de la jurisprudence européenne. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous a convenu, que vous avez pris l'information qui vous intéressait et certainement à bientôt dans une prochaine édition.